Vous écoutez RTL.
Embarquement pour le Japon avec le journaliste Mathieu Pinon. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Pinon.
Bonjour Mathieu. Bonjour.
Vous avez décidé de tordre le cou au cliché qu'on entend souvent sur ce magnifique pays, le Japon.
Tout à fait. Ça tombe bien ici, on adore tordre le cou au cliché, hein, donc vous êtes au bon endroit.
Alors vous êtes amoureux du Japon depuis combien de temps ?
Ça fait pas mal de temps. En fait, je suis tombé tant quand j'étais jeune parce que j'étais un enfant assez précoce et comme j'avais fait mes devoirs très très tôt, je pouvais regarder les dessins animés en attendant que mes camarades de classe aient fini pour les retrouver jouer.
Les mangas,
qui sont les bandes dessinées dont sont originaires ces dessins animés. Et puis en 2007, j'y suis allé pour la première fois de ma vie parce que je suis remonté à la source des mangas. Et du coup, j'ai découvert le reste de la culture japonaise. Et là, ça fait maintenant une dizaine d'années que je ne m'en lasse pas et que j'en apprends tous les jours.
Qu'est-ce que vous entendez le plus souvent comme cliché qui vous agace ?
Il y a un petit peu de tout. Il y a souvent encore, malheureusement, la confusion entre le Japon et la Chine, hein, alors qu'on est en 2018, mais on fait encore très souvent la confusion, ce qui est un peu comme si on nous confondait avec les Anglais du point de vue de l'Asie, ce qui n'est pas super agréable. Mmh. Et sinon, c'est surtout des abus de langage, des confusions qui font que dans lesquelles on perdure. Par exemple, ça m'énerve quand on dit qu'on va faire du judo ou du karaté avec un kimono, puisqu'un kimono à la base c'est une robe de soie, il y a un nom bien spécifique pour le vêtement de sport, et ces confusions permanentes font que y a toujours ces problèmes de compréhension entre nos deux pays.
Alors avec vous on va aussi parler cuisine, parce que forcément on parle de clichés. Si je dis Japon, tout le monde répond sushi. Bon ben voilà, on verra que les sushis finalement au Japon, c'est tout un art et pas uniquement une petite tranche de saumon sur un tas de riz. On en trouve même au sperme de morue. Oui, on va vous expliquer ça tout de suite sur RTL.
J'ai réalisé un rêve, je suis allé au Japon.
RTL.
Jusqu'à 15h, la curiosité est un vilain défaut. Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
14h38 sur RTL, merci d'avoir choisi la première radio de France. On vous embarque jusqu'au Japon avec notre invité, le journaliste Mathieu Pinon. Vous avez expliqué que vous êtes tombé amoureux du Japon, d'abord en découvrant les dessins animés, puis en lisant les mangas, puis en allant dans ce pays. Et alors, on est resté sur une interrogation. Vous dites, ok, on ne doit pas dire kimono quand on parle de sport et notamment de judo, mais alors c'est quoi ? Comment on appelle le vêtement qu'on
porte ? Le terme générique japonais pour désigner ces tenues de sport, c'est kaikogi, mais en fonction de votre sport, c'est très simple, vous avez juste à rajouter le terme gi, qui veut dire vêtement, derrière. Donc si vous faites du judo, vous porterez un judogi, si vous faites du karaté, vous porterez un karategi, tout simplement.
Merci au jeune Xavier de M qui nous a appelé de l'autre bout de la rue pour nous souffler cette idée de question.
Alors on s'attaque maintenant au plus gros mythe. Hein. Croquons tout de suite dans un sushi. Nous les Français, on est les plus gros consommateurs de sushi d'Europe. On adore ça. Et même si pour nous le sushi c'est quand même souvent le menu G8 avec la soupe miso et la salade de choux. Alors ça c'est nippon ou pas nippon ?
Alors c'est assez nippon parce que être de la soupe miso avec des sushis c'est tout à fait normal. En revanche, les fameuses brochettes de bœuf au fromage, c'est 100% français. Hein. Vous n'en trouverez pas au Japon, c'est nous qu'on l'a inventé.
Ah, ça, c'est drôle, ça.
Il y a même des Japonais, quand ils viennent, parce qu'ils sont invités sur des festivals en France, ils adorent aller manger dans des faux restaurants japonais pour découvrir ce qu'on a pu inventer comme nouveauté.
Alors, c'est pas du tout le plat national, là-bas, le sushi, c'est plutôt pour les grandes occasions. Expliquez-nous ce que c'est le sushi, d'où
alors,
ça vient.
Étymologiquement, sushi, ça veut dire riz vinaigré. Et en fait, c'était il y a environ de l'an 1000, il n'y avait pas de frigo. Et donc, il y avait le système de la salaison pour conserver le poisson. Donc, la salaison, c'était faite avec du riz fermenté, très salé. Et quand on mangeait ce qu'on appelait à l'époque les nalezushi, donc vraiment le sushi le plus primitif, on enlevait le riz d'abord. On mangeait juste le poisson qui était conservé. Et après, à force de mettre du riz de moins en moins fermenté, au bout de 1500, on a commencé à manger et le riz et le sushi, enfin, et le poisson en même temps. C'est un des plus grands représentants de la cuisine traditionnelle japonaise. Et effectivement, ça se mange surtout lors des grandes occasions.
Mais le sushi, il n'a pas fait son entrée, parce que la cuisine japonaise a fait son entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2013. Elle est juste derrière la cuisine française.
Quand même.
Oui, mais il n'y a pas le sushi.
Et oui, parce que le sushi, vraiment, à l'origine, c'était un plat qui se mangeait très très rapidement. C'était limite le casse-croûte des employés. Et on trouvait, au sortir des usines, enfin si on pouvait appeler ça des usines, des champs et des entreprises en 17e, 18e siècle, des gens qui étaient là avec le riz et leur poisson et qui, hop, coupaient une tranche, la mettaient sur une boulette de riz et on n'avait plus qu'à repartir avec pour la manger.
Attendez, pour bien comprendre, c'est donc passé de quelque chose de très populaire à aujourd'hui un plat qu'on mange plutôt dans les grandes occasions.
Totalement.
Ça a basculé.
C'est exactement ça.
Et alors le sperme de morue, il vient quand ?
Parce qu'il n'y a pas que le saumon, il n'y a pas que le thon dans la rue, dans la vie, mais surtout dans la rue non plus. Et donc ils mangent également des sushis avec du poulpe, des sushis à l'omelette, et il y a le sushi au shirako, qui est donc la laitance de morue, qui est extrêmement recommandée, notamment en hiver. C'est très très bon pour la santé, c'est un très bon complément alimentaire.
C'est bon.
Et vous pourrez même trouver en pharmacie, si vous vous demandez du sperme de morue en complément alimentaire, vous le trouverez en gélule.
Oui, mais alors ça, c'est un médicament ou c'est bon ?
Je vous apporte alors, ça. Pour
merci, c'est un petit cadeau de bienvenue.
Au niveau du goût, ça ressemble franchement à du fromage blanc. Voilà, c'est pas transcendant.
J'en ai moins envie.
Alors, comment on doit manger un sushi on est poli au Japon ?
Alors, vous pouvez le manger avec les doigts. Je vous recommande même de le manger avec les doigts parce que on va parler du sushi le plus classique, donc le riz surmonté d'une lamelle de poisson. Ouais. Parce que votre soucoupe de sauce soja, tout le monde prend généralement son sushi et le trempe directement dedans. Non, il faut juste humecter le poisson. Donc vous pouvez retourner pour tremper juste le poisson dans la sauce soja et ensuite le manger. Je vous conseille d'ailleurs de ne pas remplir votre soucoupe à ras-bord. Vous la mettez, quand c'est vide, vous pouvez remplir un petit peu.
Pas de moutarde, enfin de...
Le wasabi, on ne le mélange pas avec, puisque le wasabi, c'est le chef qui va décider s'il épice plus ou moins tel ou tel sushi.
Et alors, le plus grand sacrilège, c'est de mettre le sushi dans la sauce soja sucrée. C'est un peu comme si nous, on mettait de la chantilly sur de la choucroute.
Voilà, c'est exactement ça, c'est inimaginable. C'est fait pour autre chose.
Anaïs vient d'inventer une recette, chantilly choucroute, j'adore.
Je pense que ça peut...
Ou de la confiture de framboise avec du cassoulet.
Ça peut marcher, oui.
Alors, on vient de rétablir la vérité sur le sushi.
Important.
Autre cliché en France, et ça, vous allez adorer, les trains sont à l'heure.
Oh oui.
Au Japon. Bon,
toujours.
Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est un cliché, vrai.
C'est vrai.
Et on va raconter ça dans un instant.
RTL.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues. La curiosité est un vilain défaut.
J'adore les sushis.
Alors, je vais faire confiance à la traduction de notre réalisateur François Touchard. Ce japonais nous disait, je vais vous parler des transports publics au Japon.
Oui, grosso modo, c'est ça. Ah. On parle ensuite des îles vers lesquelles il avait spécifié les différents trajets.
Merci Mathieu Pinon de nous rassurer. On n'a pas fait raconter n'importe quoi à ce japonais. Pourquoi les transports ? Parce que c'est une vraie surprise qu'on a eue en lisant Téléportation Japon que vous publiez avec Laurent Koffel. C'est quoi ? C'est une compilation d'articles.
C'est une compilation d'articles qui sont parus dans le magazine Koyote, magazine qui est spécialisé surtout sur le manga et l'animé, mais les lecteurs veulent en savoir plus sur le vrai Japon. Et comme ils ont vraiment plébiscité cette rubrique, on en a fait une compilation, mais on a aussi quand même rajouté 60% d'inédits afin qu'ils ne soient pas lésés s'ils avaient déjà tout dans leur bibliothèque. Merci.
Extrêmement envie de partir. Vous baladez dans les quartiers au Japon. C'est vraiment. J'ai supplié mon mari de m'y emmener et il me dit c'est trop cher. C'est cher le Japon ?
Ce qui sera le plus cher, ce sera majoritairement le trajet pour y aller en avion. Éventuellement le logement, mais il y a toujours des plans plus ou moins faciles à trouver. Et puis les transports au Japon en tant que tel, à savoir le train et le métro, c'est cher.
Oh la jolie transition Thomas.
C'est trop fort,
ça.
Elle est trop forte cette Anaïs Bouton. Comment ils s'appellent les trains tiens là-bas ?
Alors les trains en général c'est les Densha, et si vous parlez des TGV plus spécifiquement, on parlera des Shinkansen.
Shinkansen, c'est effectivement un nom que j'avais déjà entendu. Si on doit comparer aux TGV français, ils se ressemblent, ils sont plus confortables, moins confortables.
Alors, en tant qu'usager, c'est beaucoup plus confortable. On va dire que ne serait-ce que la seconde est bien plus confortable que la première en France.
Il y a des prises pour brancher son ordinateur.
Il y a des prises pour brancher son ordinateur. Les fauteuils devant sont pivotables, c'est-à-dire que vous pouvez faire pivoter à 180 degrés une rangée de fauteuils, et ainsi vous retrouvez en rangée de 4 par 4 ou 6 par 6, 3 contre 3, pour pouvoir discuter, jouer aux cartes pendant votre trajet.
C'est plus modulable.
Il y aura toujours quelqu'un qui passera avec un petit chariot pour apporter à manger ou à boire à un moment ou à un autre. Et entre les voitures, ça dispose d'énormément de services. Donc vous avez les toilettes évidemment, mais vous avez également une cabine pour se changer. Vous sortez du travail, vous êtes en costume cravate, vous allez voir des amis, vous voulez passer en tenue plus décontractée, vous pouvez vous changer, il y a une cabine vestiaire. Pour les fumeurs, il y a encore des fumoirs qui sont entre les voitures pour pouvoir s'en griller une pendant le trajet.
Dans les TGV, on va dire dans les nouveaux TGV, alors c'est quoi ? C'est les Ouigo, c'est ça ? Si je ne me trompe, non, les
Inouï.
Les Inouï, merci beaucoup le spécialiste ferroviaire m'aurait tranché la tête sinon. Dans les Inouï, maintenant, les contrôleurs ne sont plus là justement pour contrôler les billets. Ils sont là pour accompagner les passagers. Est-ce que c'est un peu le cas aussi dans les trains japonais ?
Non, il y a toujours besoin de contrôleurs parce que le système fonctionne avec un principe de réservation ou non. que ce... Alors, en première, c'est réservé. En seconde, soit vous réservez à l'avance et vous paierez un petit supplément avec votre réservation, soit vous prenez le risque et vous dites, bah, je prends ce train, j'ai pas de réservation, mais s'il y a une place libre, je la prends. Et pour un tarif un petit peu moins cher, vous pouvez avoir accès. Donc, il y a les wagons de deuxième prévus pour, pour les réservés et les wagons qui sont prévus pour les non-réservations.
Alors, que se passe-t-il ? Les trains sont pas en retard, en fait ?
Jamais. Enfin,
se passe-t-il quand ils sont en retard ?
Ça m'est arrivé une fois, j'ai pris un Shinkansen qui a eu 2 minutes de retard.
Et quand je suis sorti,
tout le personnel était sur le quai pour s'excuser piteusement de ces 2 minutes de retard.
Ah non, mais c'est...
Avec les courbettes...
C'est un mythe, ça.
Non, parce que
2 minutes de retard pour un TGV en France, on applaudit. C'est un peu facile comme blague, mais...
Mais il faut bien prendre en compte que le trafic est tel qu'ils n'ont pas le choix. La liaison entre Tokyo et Osaka, donc les deux principales villes, c'est 319 trajets dans la journée.
319 ?
Oui. Vous en avez à peu près 10 par heure dans un sens, 10 par heure dans l'autre. Vous multipliez, vous arrivez à vos 300.
Il y a combien de compagnies ?
Alors, c'est compliqué. Il y a beaucoup de compagnies, puisque ça a été privatisé en 1987 à cause des coûts qu'avait généré les travaux pour le Shinkansen. Il y a sept compagnies, me semble-t-il, qui se disputent le marché. En tout cas, il y en a 6 qui sont issues de Japan Railways, qui sont devenues les Japan, qui étaient la société nationale, et qui ont été disséminées par région dans le pays.
Et le ministère des Transports exerce un contrôle très important sur ces compagnies ?
Pas du tout.
Ah bon ?
En fait, c'est privatisé.
Mais nous, on pose des questions de français, et donc c'est très
non, mais
bien.
C'est privatisé, mais ce qui est très rigolo, c'est que quand, en 87, ça a été privatisé, ils ont fait une magouille en créant un holding complètement pipeau, sur laquelle ils ont mis toutes les dettes qui est restée pendant 11 ans dans cette société, et quand ils ont démantelé la société en 98, ils ont créé une société publique qui absorbait les dettes. C'est comme ça que les dettes privées se sont trouvées du côté de l'État.
Peut-être une idée, Thomas ?
Mais l'État, lui, n'a pas de contrôle direct.
Inspirer nos gouvernants ?
Tiens, écoutez ça maintenant. Poupée de cire, poupée de son, version japonaise, chantée par France Gall. On vous raconte aussi cette histoire dans La Curiosité. Restez avec nous.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, soyez les bienvenus, les curieux. On vous fait découvrir le Japon authentique. Et oui, avec Mathieu Pinon, journaliste spécialiste qui connaît bien le pays. On taille en pièces les idées reçues sur ce pays fascinant.
Mais oui, on a vu que le sushi, par exemple, c'était devenu un plat de fête, finalement, alors que c'était au départ un plat populaire. Qu'est-ce qu'on a appris grâce à vous, Mathieu
Pinon ? Les trains arrivent à l'heure.
Mais alors, pile à l'heure. Il y a même autre chose qui est très drôle, c'est que parfois, j'ai lu ça en préparant l'émission, le TGV, le Shinkansen, il arrive et puis il s'arrête et il recule un tout petit peu.
Oui, tout simplement parce que sinon, les portes, elles sont pas pile poil en face des portillons, on peut pas descendre. Donc, il faut que c'est au centimètre près.
Bon, c'est un autre pays et pour ça ils sont merveilleux. Et donc on écoutait ce poupée de cire, poupée de son version japonaise et originale puisque c'est France Gall qui chante. On va parler du karaoké forcément. Est-ce que là on est dans le cliché ou est-ce que c'est vraiment une sorte de sport national ou de loisir national ?
C'est un divertissement tout à fait traditionnel. C'est vraiment le divertissement qu'on aime faire entre amis. Donc on va au karaoké. Vous imaginez un grand building comme un hôtel. Si ce n'est que vous n'avez pas loué une chambre d'hôtel, vous allez louer une chambre avec un écran, des micros et avec vos copains vous entrer dedans. Et pendant une heure, vous pouvez boire et chanter. Et puis si vous voulez passer 2 heures, vous pouvez passer 2 heures, 3 heures. Enfin, le forfait que vous choisissez.
C'est pas comme ici les bars à karaoké.
Alors, il y a encore quelques bars à karaoké, mais ce sont des établissements de très petite superficie. Donc, on va être une douzaine de clients, une vingtaine grand maximum. Donc, on chantera avec les autres et puis il y aura une convivialité qui va se créer entre les 20 personnes. Mais vraiment, le karaoké, ça reste quelque chose entre amis, dans des box séparés et privatifs.
Mathieu Pinon, imaginons, et on l'espère, on vient de donner envie, grâce à vous, à plusieurs de nos auditeurs de partir au Japon. Ils vont économiser, parce que ça coûte quand même un peu cher pour trouver un billet d'avion. C'est quoi leur premier contact avec la culture japonaise ?
Très généralement, quand on a fait 12 heures de vol, on a très envie d'aller aux toilettes, on découvre les toilettes de l'aéroport, et là on découvre les toilettes japonaises.
Alors c'est quoi ?
C'est les toilettes, ce qu'on appelle des washlets, qui ont été créées par la société Toto.
Donc oui, c'est ton surnom.
Quand on parle de WC,
tout le monde s'en moque, mais bon.
Quand on parle de WC au Japon, on peut vraiment faire des histoires de Toto, littéralement.
Oui.
Et donc le washlet, c'est une lunette électrique qui va permettre d'avoir un petit jet d'eau qui va venir vous nettoyer entre les fesses quand vous avez terminé. Mmh. Et puis après, vous avez toutes les options possibles. Ça peut être chauffant. Certaines font de la musique pour les plus timides et les plus discrets qui ne veulent pas qu'on entende le bruit de leur déjection. C'est déclinable à volonté.
Mais alors, les washlets, ça c'est l'idée un peu qu'on a de trucs très confortables, mais le toilette asiatique, c'est pas ça en fait. Dans le Japon aussi,
exactement.
Ce qu'on appelle les toilettes à la turque.
Les toilettes à la turque. À l'origine, les premières toilettes qui se sont développées au Japon, c'est ce qu'on appelle les washiki. Donc ceux qui s'y connaissent peut-être un petit peu en culture japonaise connaissent le papier washi, le très célèbre. Eh bien, c'est parce qu'on se torchait avec le papier washi que on appelait ça des washiki. Et ça ressemble typiquement à des toilettes à la turque. On en trouve beaucoup à Tokyo encore aujourd'hui, mais d'ici les Jeux Olympiques de 2020, la municipalité a décidé de toutes les éradiquer pour les remplacer par les toilettes à l'occidental.
Si on doit donner, pour ceux qui veulent partir, une bonne période, c'est peut-être celle de la floraison des cerisiers, en quelques mots, parce que ça va être
fin
plus poétique.
Fin mars, début avril, parce que c'est très très beau, et c'est moi-même la période à laquelle je me rends chaque année pour des raisons professionnelles, et chaque fois, c'est un voyage différent, alors que c'est la même période et c'est la même ville. Donc je vous conseille très très sincèrement d'aller en mars, avril, pour les cerisiers en fleurs.
Les gens regardent la beauté des cerisiers en fleurs en famille, dans les parcs, c'est ça ?
En famille, entre amis, entre collègues.
C'est magnifique. On découvre tout ça dans votre livre Téléportation Japon, coédité chez Coyote et Inis.
Coyote Magazine, aux éditions Inis, avec des photographies de Laurent Coffel.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.